pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 189. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça avec mon camarade Benjamin François Benji. Comment vas-tu ?
Salut Daniel, salut les auditeurs, ça va. On est sur un rythme presque mensuel.
Ouais, on est mensuel maintenant.
Ouais, on était sur du bi-hebdomadaire, mais bon, c'est un peu difficile à tenir et puis on a des occupations, mais mensuel c'est bien. Si on arrive à tenir mensuel, c'est pas mal.
Ah, attends, depuis tout le temps qu'on fait ça et sans se lasser.
Voilà, exactement.
Alors, on se lasse pas non plus de Super Ciné Battle, mais alors je tiens à prévenir les gens, à cause de nouveautés concernant moi, mais surtout Stéphane. On a un rythme, on aura un débit un petit peu chaotique pour les prochaines semaines. Surtout qu'en plus, là, c'est les fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, il y a les épisodes spéciaux d'After Eight et tout. Va falloir qu'on danse avec Stéphane Boulet, j'ai l'impression.
Ouais, bah après, c'est lui, il a eu, disons, des évolutions dans sa carrière qui font qu'il est très occupé maintenant. Voilà.
Un poste de Premier ministre, ça ne se refuse pas. Écoute,
son poste de ministre de l'Éducation. Mais tu sais, on a notre blague récurrente, c'est le gros le cast aussi, on prend du plaisir à le faire. Hein. On n'en a pas fait depuis 3 ans, c'est pas parce qu'on n'aime pas le faire, hein. C'est juste que, bah, emploi du temps de ministre et puis il faut préparer. Et puis en fait, ça, c'est très très facile de se dire allez, on va en faire un bientôt, hein, et puis de jamais en fait se caler une date. C'est très très facile. Et c'est malheureux parce que j'aimerais bien que le Grolcast revienne. Le Grolcast n'est pas mort, hein, sachez-le. Il est branché sur respirateur artificiel, mais un jour le Grolcast reviendra.
Techniquement, j'ai participé un peu au Grolcast puisque l'autre jour, je t'ai dit j'ai vu un film avec Dave Grohl. Et c'était le film des Muppets, puisqu'il fait un caméo.
Ah bah oui.
Il fait un caméo dedans.
Il fait un caméo dans le film des Muppets, ouais.
Je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas.
J'ai pas vu le film des Muppets, mais j'avais vu. Il y a une vidéo qui tourne où il fait un drum-off avec Animal.
Mmh, exactement. Alors, en parlant d'Animal, il faut que je te le raconte. Mon fils est fan d'Animal.
Ouais.
Il est fan d'Animal en particulier.
C'est le meilleur perso des Muppets, hein, perso, je trouve.
C'est le meilleur perso des Muppets. Déjà, il était fan de Manamana.
Ouais.
Donc, Manamana, que tout le monde connaît.
Bah, qui est une des premières vidéos du Muppet Show, d'ailleurs.
Oui,
c'est
oui.
Un des premiers morceaux musicaux du Muppet Show, de mémoire.
Exactement. Je connais par cœur, hein, évidemment. Il est dispo sur le vinyle du Muppet Show que j'avais quand j'étais petit.
Ouais.
Et donc, je connais vraiment ce Manamana vraiment par cœur, et surtout cette version-là, mais genre à la virgule près. Et donc, il était déjà branché Muppet Show, mais là, en fait, il a un truc, c'est qu'il est branché, sans le savoir, sur ce groupe de pop musique moderne qui s'appelle Queen. Parce qu'en fait,
ouais.
Bohemian Rhapsody,
ah bah oui.
Il y a la Bohemian Rhapsody des Muppets.
Tout à fait. C'est même là, je crois que j'ai vu la version des Muppets avant de voir le vrai clip de Bohemian Rhapsody.
Ah, ça peut arriver. Mais en tout cas, mon fils, en tout cas, c'est le cas. Et donc, du coup, pour lui, quand arrive le moment... Mama, qui est chantée par Animal.
Ouais.
Nous, évidemment, on fait ouh, c'est une chanson de karaoké. Enfin, je veux dire, on l'a chantée des milliards de fois. Nous.
Bah, on l'a faite la dernière fois qu'on a fait du karaoké, toi et moi, on a fait Bohemian Rhapsody.
C'est même sur ça qu'on a terminé, même.
Ouais.
Parce que c'est un peu un rituel, on se termine soit sur Bohemian Rhapsody. Et sache-le, quand on fait un karaoké au Japon, en général, on se termine sur Akira.
Ah, bah oui, oui.
Genre, t'imagines, Akira, c'est vraiment un cri du cœur. Mais donc, Bohemian Rhapsody et la version, il y a le moment, donc, Animal fait Maman. Et en fait, il fait que ce qui est pratique, en fait, et quand j'ai découvert ça, en fait, parce que je connaissais pas cette version, ça t'évite toutes les paroles un peu compliquées à expliquer à un enfant.
Ah oui, oui.
Sur tout ce passage-là, il est compliqué parce qu'après, c'est plus rigolo.
Tout le passage où il parle d'avoir tiré une balle dans la tête d'un gars, oui, effectivement.
Oui. L'étranger de Camus version Queen. Non.
Voilà.
Et ensuite, la chanson, il connaît. À peu près tout par cœur. Il connaît même, tu sais, c'est ça, en fait, on voit le futur fan de comédie musicale. Il connaît aussi les didascalies, puisqu'à la fin, il y a Scooter et Kermit qui disent le commentaire. Il connaît le commentaire à la fin. Genre, il fait Scooter, hey Chief, yes Chief. Il connaît par cœur le, il connaît les dialogues, en fait.
Mais donc, il comprend l'anglais, ton fils?
Il calcule très bien en anglais. Je t'ai dit qu'il est bon pour en calcul.
Bah oui, tu m'as dit le truc des chiffres, là.
Le truc des chiffres était en anglais, donc il a appris les chiffres d'abord en anglais. Il est très bon en chiffres en anglais.
Quasiment trilingue, du coup.
Sur les chiffres. Sur les chiffres.
Ok.
Sur les chiffres seulement.
Et écoute, faut bien commencer quelque part.
Et en tout cas, il connaît le Bohemian Rhapsody Muppets assez bien. Et donc, du coup, j'ai essayé, j'ai mis tout l'album de Queen, donc, du coup. Et à un moment, il s'est mis à m'imiter, il commence à faire Under Pressure. Tu sais quoi, Max Besnard serait fier de ce garçon.
Ah, je pense, oui.
En tout cas, voilà, c'est je voulais commencer. Puisque tu m'as lancé sur là-dessus, voilà, je voulais.
Oui, bah on a un peu dévié, mais écoute, c'est pas grave. Cette émission, c'est une.
C'est notre moment.
C'est un panaché de hors-sujet.
C'est un panaché de hors-sujet, c'est aussi un moment où on se fait plaisir, on raconte des nos histoires qu'on raconterait pas en temps normal, ou on...
Bah, mine de rien, cette émission, c'est l'occasion pour nous de prendre des nouvelles en public avec tout un tas de gens qui nous connaissent pas et qui nous écoutent.
C'est vrai. C'est vrai que faut savoir un truc, c'est que de toute manière, si on faisait pas ce podcast, on s'appellerait pour discuter, en fait, tout simplement.
Bah, on le fait aussi, de toute façon.
Oui.
Et puis, on discute en dehors, mais c'est vrai que des fois, on se dit, ah, ça, je le garde pour After Eight.
Ouais. Mais en fait, en vrai, pour vous dire la vérité aux gens, c'est qu'on discute souvent des trucs, mais en fait, on réagit parce qu'on a un canal, comment ça s'appelle, Signal.
Signal, ouais.
Et on en voit en général, et c'est les réactions, et en général, c'est « Haha, t'as vu le nouveau ministre de l'Éducation ?» En général, pour énerver quelqu'un.
Bah, vu qu'il change tous les jours, en plus, ça nous fait un sujet comme ça.
Et toi, on évite de t'envoyer les news US, parce que déjà, un, t'as plus de chances de les avoir avant, et en plus, t'as plus de chances d'être vénère avant.
Je baigne dedans et je suis vénère tout le temps, donc...
Non, mais on comprend tout à fait. Mais oui, donc on reste quand même très en contact, bien qu'il y ait ce moment de podcast. Ce moment de podcast, c'est le moment idéal pour me dire sur quoi t'as passé 99 heures, mon gars.
Alors, j'ai passé 99 heures, 59 minutes et 55 secondes sur Silksong. Et oui, je sais plus si... En fait, c'est pas impossible que pendant le dernier épisode, j'en ai déjà parlé en disant je suis déjà dessus, j'ai déjà 30 heures dessus.
T'en as parlé.
Le truc, c'est que mon temps de jeu vidéo étant restreint, moi, j'étais super impressionné parce que sur Discord, tu sais, on a quelques acharnés. Et quand Silksong est sorti, on s'y est tous mis. Je m'y suis mis à peu près en même temps que tout le monde. Hein. J'ai acheté le jeu Day One. Le truc, c'est que entre le moment où j'ai commencé Silksong et le moment où je l'ai terminé, eux, ils ont fini Silksong, Hades 2, Dispatch, Absolum, et ils sont sur je sais pas quoi maintenant. Je sais pas comment ils font. C'est super impressionnant. Ils ont fait Donkey Kong. Enfin, bon, bref. Moi, bah, j'ai fait que Silksong parce que j'ai passé 100 heures dessus, mais je l'ai fini à 100%. Et c'était extraordinaire. C'était une expérience incroyable. Alors, je peux tout à fait entendre les gens qui trouvent que le jeu est beaucoup trop dur pour son propre bien. Et c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui aurait pu mériter un mode facile pour permettre à beaucoup plus de gens de l'apprécier. Notamment parce que on sent bien les origines de DLC du jeu. La courbe de progression est vachement moins fine que dans Hollow Knight, parce que la fin de Hollow Knight, elle est corsée, mais comme tout le long du jeu tu progresses doucement, t'apprends les mécaniques et tu prends un petit peu de tes aises, ben c'est quand même plus facile que là où s'ils sont où t'es quasiment jeté aux enfers quasiment dès le début, en fait, où c'est vraiment très difficile dès le début. Et je comprends tout à fait les gens qui ont abandonné, tout comme je comprends les gens qui quand ils ont battu un certain boss et terminé l'acte 2, se sont dit bon bah le jeu est terminé. Et en fait, pas du tout. Il reste quasiment un tiers du jeu qui est caché derrière une quête plus ou moins optionnelle et qui t'ouvre un acte 3. Et c'est vraiment dommage. Alors, d'un côté, je salue un petit peu le côté le vrai jeu est dans le post-game, quelque chose dont on reparlera dans pas très longtemps. Là, c'est pas vraiment que le vrai jeu est dans le post-game, c'est que tous les passages vraiment narrativement super émouvants, super forts... tout le vrai message du jeu, il est dans cet acte 3. Et je trouve ça fou de se dire que, bah, il y a une immense majorité des gens qui ne le verra jamais, soit parce qu'ils ont abandonné plus tôt, soit parce qu'une fois qu'ils ont fini l'acte 2, ils se sont dit, bon, c'est bon, j'en ai eu assez, je suis pas venu ici pour souffrir, c'est pas la peine de continuer. Et j'ai déjà eu une fin, si tu veux. Parce que c'est vrai, hein, il y a un credit roll, t'as un générique de fin et tu pourrais dire, j'ai terminé le jeu, alors qu'en fait, t'as cette quête optionnelle qui te donne accès à cet acte 3. Et pour moi, cet acte 3, c'est là où t'as vraiment toute la puissance narrative du jeu, qui est faite de beaucoup de choses suggérées, qui est faite de non-dits.
Est-ce que c'est vraiment la puissance narrative du jeu ? plutôt que sa mécanique qui est la star.
Ah non, 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 il y a une vraie narration, il y a un vrai, une vraie puissance narrative. Je peux te garantir qu'à un moment, j'ai failli chialer devant un insecte en 2D dessiné à la main qui est mort, quoi. J'étais à fond dedans, quoi.
Moi, j'ai failli chialer devant Inazuma Eleven, donc je peux comprendre.
Voilà, tu peux comprendre d'où je viens.
Et Inazuma Eleven, c'est un jeu de foot dont le premier match de foot arrive au bout de 7 heures.
Ouais. Bah, c'est un peu comme Olive et Tom, en fait. T'as 7 heures de préparation, puis finalement, t'as le match. Mais non, vraiment, il y a une vraie intensité narrative parce que t'as des personnages que tu vas rencontrer. Et alors, les gens qui ont joué un minimum à Silksong le savent, les NPC sont formidables. Les PNJ, t'as des PNJ extraordinaires, t'en as qui chantent et leurs chansons sont toujours super. Et puis, t'en as des fois qui viennent t'aider pour des combats, t'en as certains qui viennent t'aider plus que d'autres, t'en as certains avec lesquels tu t'attaches. Et l'acte 3, en gros, l'acte 3, c'est un peu le Dark World de Link to the Past. En gros, il se produit un truc qui fait que t'as une espèce d'entité sombre qui prend complètement le contrôle en fait de la totalité de l'univers dans que tu explorais jusqu'ici. Et t'as des ennemis qui du coup deviennent encore plus puissants, ce qui a pu pousser des gens à dire bon allez c'est bon, stop, j'ai pas besoin de me refaire défoncer par des petits mobs qui seraient du menu fretin autrement. Et tout ce côté sombre et mélancolique, que le jeu est déjà pas joyeux, hein. Je sais pas si t'as joué un peu à Silksong, mais déjà de base tu sens que c'est un monde un peu dévasté, tu sens qu'il y a vraiment des trucs super chelous qui se produisent, globalement c'est une atmosphère assez triste, c'est pour ça que les PNJ un peu joyeux, il y en a quelques-uns un peu joyeux, ils dénotent tellement de l'ensemble que tu t'es obligé de t'y attacher en fait. Et là, l'acte 3, c'est la tristesse qui pousse la surmultiplie. Et tout est sombre, tout est poisseux, tout est complètement glauque. Et c'est là-dedans que tu vas évoluer. Mais là, ça prend une... je dirais que la narration prend une intensité que tu n'as pas dans les deux précédents actes. Donc vraiment, j'invite tous les gens qui, à la fin de l'acte 2, ont abandonné, à insister. Et j'entends tout à fait les arguments disant « Ouais, mais moi, je suis pas là pour le get good, ça m'intéresse pas. » Je l'entends tout à fait et je peux vous confirmer que oui, il y a vraiment des boss sur lesquels je me suis acharné pendant des heures. Il y a des boss, j'ai mis 6 ou 8 heures à les battre, quoi. Ça a vraiment été un enfer. Mais de toute façon, toi, tu connais ça avec les Souls-like. La satisfaction que tu peux avoir quand tu bats un boss sur lequel t'as galéré pendant super longtemps, elle est assez intense. Et là, il y a vraiment une récompense réelle. Et je ne regrette aucune de ces 100 heures passées. Même si, au final, tu peux passer 100 heures à avoir le 100% de complétion et ne pas avoir platiné le jeu. Puisque, et c'est là que le jeu est vraiment sadique, si tu veux le platiner...
Il faut rejouer.
Il faut le finir à... Non, mais il faut le finir à 100% en mode hardcore, qui est le mode où t'as du permadef, en moins de 3 heures. Enfin, non, mais laisse tomber, quoi. Jamais de la vie, je fais ça.
Comment du permadef, ça veut dire si tu meurs?
Si tu meurs, tu es mort. Tu recommences du début.
Ah, oula, oh, ok, d'accord.
Oui, tu vois, un permadef sur Silksong, jamais.
Sans façon, genre.
Non, mais okay. Voilà, on est d'accord.
Et puis, il y a un mec qui sort de la télé qui te tue. Ok, d'accord.
Voilà, c'est comme si on disait, tu veux le platine sur Elden Ring? Il y a un permadef. Non, mais voilà, non, mais jamais de la vie, quoi.
Ouais.
Jamais de la vie. Donc, écoute, je suis sûr qu'il y a des speedrunners qui le feront en une heure. Mmh. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai eu les 100% de complétion. Alors, pour avoir les 100% de complétion, il faut récupérer toutes les armes supplémentaires. Il faut récupérer toutes les extensions de vie, toutes les extensions de soi. Et il faut avoir quelques autres trinkets, enfin des trucs collectibles globalement. Et il y en a que tu ne peux avoir que dans l'acte 3. Donc c'est pour ça que t'es obligé de faire l'acte 3 pour avoir le 100%. En revanche, t'es pas obligé de battre tous les boss, par exemple, pour avoir les 100%. Mmh. T'as plein de boss qui sont optionnels, t'es pas obligé de les battre. Donc le 100% est faisable, mais il faut un petit peu se forcer.
Moi, je vais te poser une question malicieuse. Est-ce que
vas-y,
ça sera ton vote pour le GOTY, puisque je vais te donner les cinq autres dont nommé du, tu sais, le Game of the Year, donc du...
Ah bah, les Geoff Awards.
Les Geoff Awards. Donc, il y a Hollow Knight Silksong. Il y a Kingdom Come Deliverance 2. Mm-hmm. Je suis désolé, je botte en touche, je ne connais pas du tout.
Non, mais je sais pas, je connais, mais je sais pas ce qu'il fout là.
Il y a Hades 2.
Ouais.
Alors, Hades 2, j'ai pas joué. Je sais que si je touche à Hades 2, je suis fini. Genre, on ne me revoit plus pendant 2 semaines.
Bah, Hades 2, je l'ai, mais je me suis dit qu'après Silksong, j'avais besoin d'autre chose plutôt qu'un truc sur lequel j'allais encore passer 100 heures, mais on en parlera plus tard.
Il y a Donkey Kong Bonanza.
Ouais, que j'aimerais bien faire aussi.
Il y a Death Stranding 2, On the Beach.
Et tu sais que j'ai pas fait le premier, donc... Ouais.
Et sauras-tu deviner le sixième?
Le sixième, alors
on va voir si tu connais un peu l'actualité du jeu vidéo, parce que c'est...
Alors, est-ce que ça peut être Ghost of Yotei?
Non, pas du tout.
C'est pas Ghost of Yotei?
Non.
Laisse-moi réfléchir. Clair Obscur.
Ouais, exactement. J'allais te donner un indice. C'est un RPG.
Expédition 33. Ouais. Alors,
Expédition 33. Qui a l'air d'être largement le favori là-dedans.
Ouais, j'ai entendu dire que ce serait le favori. Bah écoute, c'est pas dur. Hein. Ce sera Silksong parce que c'est le seul auquel j'ai joué. Voilà.
Mais après, tu sais, en fait, en général, ces trucs-là peuvent être complètement Astrobot a gagné l'année dernière.
Ouais.
Devant FF7 Rebirth, Metaphor of Fantasio, le DLC de Elden Ring. C'est Baldur's Gate 3 qui avait gagné en 2023 face à Tears of the Kingdom.
Ouais.
Tu vois, Super Mario Wonder. Enfin, tu vois, il y avait et Resident 4, le remake. Elden Ring avait gagné. Elden Ring avait gagné, c'est normal.
Oui.
It Takes Two avait gagné devant Metroid Dread, Psychonauts 2, Resident Evil 8.
Ça me fume un peu, hein, parce que il fallait vraiment que l'année soit faible, parce que It Takes Two, quelles que soient ses qualités. Putain, l'écriture, elle est quand même atroce. Quoi.
Et 2020, c'est l'année où Hades a été volé. Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, puisque c'est Last of Us Part II qui avait gagné.
Oh, mais quelle honte!
Non, après, je comprends que les gens aiment Last of Us Part II, mais t'as l'impression que ça a été fait pour Last of Us Part II, quoi.
Oui, voilà, j'ai beaucoup aimé Last of Us Part II, mais le fait que ça gagne par rapport aux autres trucs, là, bon.
Okay. Bon, Animal Crossing qui, normalement, juste pour le nombre de gens sauvés pendant le Covid, genre, devrait avoir une médaille.
Puis en plus, attends, c'est Last of Us Part II remaster, non?
Est-ce que c'est le remaster?
Peut-être pas, c'est peut-être l'original.
C'était
à cette date-là.
Non, 2020, donc c'est sur PS.
Non, c'est ça, c'est fin de PS4 et donc le remaster est sorti sur PS5 l'année suivante.
Ouais, il est sorti en juin 2020.
Un truc comme ça.
Donc, okay. Oui, il est sorti en plus.
Bon, ok. Ok, admettons, ça reste.
Admettons.
Last of Us Part 2, même si j'ai plein de reproches à lui faire, ça reste quand même un gros jeu. Ouais, ouais.
Donc, ouais, on regardera, on vous donnera nos impressions, peut-être qu'on fera nos awards à nous.
Ouais, moi je regarderai pas, hein. Je file pas un clic à Geoff.
Ah non, moi je regarde, mais moi, pour moi c'est l'industrie, il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe.
Ouais, ouais. Le seul jeu que j'ai fait, c'est Silksong, donc ça sera Silksong par défaut.
Je te dis, Hades 2 me tente beaucoup.
Mm. Avant que je parle du jeu que je fais en ce moment, qui n'est donc pas Hades 2, est-ce que tu veux parler jeux vidéo, toi?
Je vais parler vie réelle. Je pensais en parler en ouverture, finalement j'ai parlé de Bohemian Rhapsody, ce qui est ce que je préfère en fait.
Vas-y.
Alors, c'est pour tenir les gens au courant, mais finalement, mon taux de Wolverine n'a pas été si élevé.
Ouais.
J'étais sur une plage à un moment, et j'ai pris un caillou et je me suis dit, je vais le jeter à la mer. Et tu sais, le mouvement de pitch est un mouvement un tout petit peu rotatif. Tu sais, pour pitcher une balle, il faut faire un tout petit, il y a une toute petite torsion que tu dois faire.
Ouais.
Et j'ai eu mal à cette torsion et je me suis dit, non, je ne suis pas quand même guéri. On a refait des analyses et évidemment, il y a un truc dans le tibia qui était déplacé. Mmh. Et donc, je me suis fait opérer. Donc, s'il y a la semaine dernière, donc ça va faire bientôt 10 jours, je ne peux pas encore plier la jambe. J'étais un petit peu, j'étais quelque peu handicapé par cette histoire parce que.
Mais est-ce que tu es Wolverine maintenant? Est-ce que tu as du métal dans la jambe maintenant?
Non. À un moment, je me suis dit, pourquoi vous me mettez pas une jambe robot au bout d'un moment?
Oui, voilà.
Alors, il faut que je te dise un truc. Quand j'ai parlé de Queen, mais en fait, quand je suis sous morphine et que je suis complètement défoncé par le parce que là j'ai fait en ambulatoire.
Mm-hmm.
Je chante du David Bowie, moi je chante The Man Who Sold the World. Ah non, mais à chaque fois je le chante et genre j'ai dit, est-ce que ça vous dérange que je chante? J'ai dit, bon, dis, alors voilà, je suis bien entendu avec mon chirurgien qui semble-t-il a réussi l'opération, mais je saurai plus quand la phase de rééducation battra son plein. Là j'ai commencé la rééducation. J'ai des moments de douleur, j'ai des petits moments de douleur parfois qui me tétanisent un peu, qui me font un peu peur, mais parce que évidemment t'es à l'écoute du moindre mouvement, du moindre faux mouvement que tu pourrais faire et tu te dis, merde, est-ce que ça a marché ou pas. Et à un moment, mon charmant chirurgien m'a dit, est-ce que vous voulez voir? J'ai dit, si ça me file pas de cauchemar, moi je veux bien. Et en fait, c'est très très propre l'intérieur de ton corps. En fait, genre, il me dit, là c'est le tibia, là c'est le machin. Et en fait, ça dédramatise beaucoup quand tu vois l'intérieur comme ça avec une caméra et tout. Et voilà. Donc maintenant, normalement, je devrais avoir un genou neuf pour reprendre du sport d'ici. Allez, soyons optimistes, d'ici mai-juin. Tu vois, un truc comme ça.
Ouais.
Voilà, c'était un peu douloureux. J'ai utilisé ma blague en disant, j'ai de la morphine, mais j'ai ma belle-mère qui arrive bientôt. Est-ce que je peux en garder pour plus tard? Évidemment, les blagues de belle-mère, ça fait rire tout le monde. Mais voilà, j'essayais de pas trop parler aux chirurgiens et de parler aux autres gens. Donc on a parlé jeux vidéo dans la salle d'opération et tout. C'était assez. Voilà, c'était dire que j'ai passé un bon moment. j'ai pas passé un moment déplaisant, en fait, mais voilà, maintenant ça y est, je suis opéré et j'attends. Je me sens frustré de pas pouvoir faire tout ce que je voudrais avec mon fils, mais je pense que c'est un petit moment à passer, le temps que, bah, évidemment, j'ai été ouvert, voilà, il faut du temps pour, et ce genre de blessure mais quand même un an, peut-être un an pour s'en remettre, avec en faisant de la thérapie, donc voilà, pour rassurer les gens, je vais bien. Et on a pu enregistrer Soumis ma scène turbo hier, mais j'ai demandé à ce qu'on soit en mode canapé, c'est-à-dire qu'on soit pas debout, parce qu'en fait, je peux pas tenir 4 heures de chaises, de piliers de bar, là, tu sais, là, les...
Bah ouais, de tabouret, ouais.
Les tabourets, 4 heures de tabouret, j'aurais jonglé.
J'imagine.
Déjà que c'est dur quand t'as des jambes, alors en plus, voilà, donc. Donc voilà, je tenais à rassurer les gens, merci aux gens du Discord et aux autres qui ont envoyé des petits mots gentils. Et voilà, bah, il ne me reste plus qu'à me remettre. Et puis, je n'ai pas arrêté le boulot. C'est toujours ce truc de... Je vous fais un arrêt de travail. Normalement, si tu dois être arrêté 30 jours, je fais un arrêt de travail. Je dis, à qui je vais le donner? Donc voilà, je travaillote un peu d'un bras. Je joue beaucoup. J'ai beaucoup joué. Et j'ai beaucoup joué à des séries. J'ai beaucoup regardé de séries, pardon. J'ai beaucoup joué de jeux vidéo et j'ai regardé beaucoup de séries.
Ouais.
Et j'ai entrepris aussi un autre truc depuis quelques semaines déjà, et je vais en parler maintenant. Sur Letterboxd, tu connais un peu Letterboxd, comment ça se passe ?
Je connais le principe, ouais.
Donc sur Letterboxd, en fait, je m'occupe d'un truc, j'ai ouvert une liste où je revois tous les films de robots qui existent, c'est-à-dire les films de robots japonimes, hein, j'entends.
D'accord.
Et voilà, donc là j'enchaîne, j'en suis...
C'est beaucoup quand même, non ?
C'est pas tant que ça, en fait, parce que même avec Gundam et tout, là j'en suis à 11 films revus.
Mais genre tous les Gundam, tous les Macross, tous les Mazinger, tous les Grandizer, tous les...
Il y en a pas tant que ça. Il y a un film de Grandizer, en fait. En plus, c'est un moyen-métrage, mais je le compte comme un film. Mais du coup, je me fais régulièrement, une fois par semaine, deux fois par semaine, je me fais un film de robots. Et une fois, j'ai un film de mecha où il y a des robots à un moment dedans, donc ça passe.
Est-ce que Ultraman compte ?
Non. Non, sauf si c'est un dessin animé. Il y a des dessins animés basés sur le monde.
Ouais, ouais.
Il y a j'oublie toujours le nom. Dinazeman, qui est un spin-off d'Ultraman. C'est produit par Eiji Tsuburaya.
Il y a un Ultraman sorti sur Netflix, genre l'année dernière, et je l'ai vu. C'était pas bien.
C'est pas ouf, ouais. Mais tu sais que si tu veux voir des Ultraman assez bien, en fait, il y a toujours un truc, une solution, c'est la chaîne YouTube Ultraman.
La chaîne YouTube, ouais. Ouais.
Qui n'est pas géoloquée, et au contraire, tout est en sous-titrage. Mm. Pendant que j'étais en convalescence, le déjeuner, je l'ai fait sur Ultraman 80. C'est la série des années 80 d'Ultraman qui est assez rigolote. Et voilà. Et en fait, comme ils gardent tous les épisodes, t'as juste à faire Ultraman 80 épisode 2. Hop, il y est et tout. Mais pour l'instant, j'ai revu. Et du coup, j'essaie de revoir aussi les films résumés de séries. Donc, il y aura Gundam, évidemment. Il y a Gundam 083 qui est aussi un film résumé.
Tu vas te refaire les Shin Evangelion ?
Je vais me refaire Evangelion, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Je me suis fait Ideon, les deux films, donc le film résumé et le film conclusif. Escaflowne, je me suis fait Gundam 00 que j'avais pas vu. Et alors hier soir, je me suis dit, et si je me regardais un petit peu de Gakushu no Char ? Je regarde le début et je suis hypnotisé jusqu'à la fin. Un film que j'ai vu et ensuite j'ai revu par bout sur YouTube, parce qu'évidemment, il y a le climax que j'ai revu plein de fois et tout. Et en fait, je me suis dit, mais quel grand film, en fait. Et il y a plein de trucs que j'ai revus, que j'ai vus quand j'étais ado ou post-ado. Là, j'avais dû avoir 20 ans, là, peut-être 18 ans quand j'ai vu Gakushu no Char. Et ben, écoute, j'étais complètement blasté par la puissance, le côté épique de Gakushu no Char. Donc voilà. Si vous voulez trouver ça, vous me trouvez sur Letterboxd et j'ai fait une liste qui s'appelle Robot Animé Movies. C'est aussi simple que ça. J'essaye de faire une critique courte à chaque fois. De pourquoi c'est bien, quoi.
Et alors, juste pour préciser, est-ce que il faut que le robot soit quand même l'élément central, ou est-ce que juste un film animé dans lequel il y a des robots d'une réseau à une autre, ça marche?
Alors, j'accepte s'il y a un film où il y a des robots. Par exemple, Crusher Joe, c'est un film où c'est que des personnages. Mais à la fin, Le méca design est assuré par Kawamori, le mec qui fait Macross.
Ouais, ouais.
Et à la fin, il y a un robot, le méchant, c'est un robot, c'est un Votoms, quoi. Donc, pour moi, ça rentre. Et en plus, il y a un méca design d'araignée assuré par Katsuhiro Otomo. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui font que je considère ça comme un film de méca. Il y a des cas particuliers, par exemple, il y a le film de Goshogun. Alors, Goshogun, qu'est-ce que tu connais, Goshogun ?
Dis toujours.
C'est un truc qui a été diffusé aux États-Unis, en plus, Goshogun. Mm-hmm. Goshogun, si vous voulez, tous les épisodes sont dispo sur YouTube de manière plus ou moins, voilà, ce que vous voulez. Mais Goshogun, c'est une série de mechas où ces trois robots, c'est des robots qui s'assemblent et qui deviennent une espèce de robot Shogun et qui traversent l'espace. Et il y a trois pilotes, un pilote très brave, un blond un peu rebelle et une jolie blonde.
D'accord.
C'est vraiment les années 80 pures. Mais la particularité de Goshogun, c'est que les méchants sont assez charismatiques. Et au fur et à mesure, ça c'est assez nouveau, les méchants vont s'allier aux gentils. Ça c'est un truc assez nouveau dans les années 80 quand c'est fait.
Ouais.
Et la particularité du film de Goshogun, c'est qu'il s'appelle, de mémoire, il s'appelle L'étranger. Le Time étranger. Il s'appelle étranger, même il est sous-titré comme étranger en japonais.
D'accord.
Tokino étranger. Et donc, évidemment, la référence, c'est Camus.
Ouais.
Et c'est un film basé sur Goshogun. Hein. Il y a Goshogun dans le titre, mais où tu vois pas le robot. C'est Goshogun avait tenté un truc, c'était une série de robots où il y a un épisode où il n'y a pas le robot, c'est la première fois qu'on voyait ça. Mmh. Et là, ils ont carrément fait un film où on ne voit pas de robot. Alors, est-ce que ça, pour moi, ça rentre quand même dans l'univers de Goshogun, donc c'est un film à voir si tu t'intéresses aux robots.
Ouais.
Mais tu peux regarder le film sans jamais avoir vu la série. Et c'est presque un film d'arrêt d'essai, quoi.
Mais du coup, est-ce qu'un film Dragon Ball dans lequel il y aurait des robots, genre les robots de l'armée du ruban rouge, ça compte ?
J'aurais tendance à pas le compter, celui-là.
D'accord.
Même si les méca design sont assurés par Akira Toriyama, et Akira Toriyama était méca designer à ses heures, hein, quand même.
Mais je pense au film Dragon Ball dans lequel il refait plus ou moins tout ce qu'est la scène dans la tour.
Avec le Frankenstein robot.
Avec le caméo d'Arale, d'ailleurs.
Ah, bon, écoute, t'as un bon point. Est-ce que je considère ça comme un film de robot ? Dites-moi. Mais bon, évidemment, Mazinger Z versus Devilman. Facilité à le mettre. Gunpowder 91, évidemment. Et voilà, normalement, je me donne un peu de temps avant de m'atteler à Evangelion, parce que Evangelion, c'est quand même un gros morcif. Est-ce qu'il ne faut pas que je me regarde la série avant pour me remettre dedans?
Ouais.
Mais voilà, c'est mon petit plaisir. J'en suis à 11 films dans ma liste et ça continue, ça grossit.
J'ai toujours pas vu les films Shin Evangelion parce que je me dis que j'aimerais bien revoir la série avant, même si je sais que c'est pas nécessaire.
Parce que tu l'as en toi, la série Evangelion.
Ouais, la série, ça fait presque 30 ans que je l'ai pas vue, en fait.
Mais tu vas avoir une vraie claque. Hein. Le dernier film, c'est tellement monté en épingle que j'ai chialé. Hein.
Mais du coup, le premier film, globalement, c'est un résumé de la série ou
C'est un résumé de la série jusqu'à l'épisode. Jusqu'au sixième épisode, jusqu'au septième épisode.
Et ensuite, ça fait autre chose.
Mais raconté très vite. Et aussi, un autre truc, t'as tous les détails, par contre. Il n'y a pas de truc qui zappe, il n'y a pas de truc qui saute. Mais par contre, c'est réécrit. Et surtout, c'est refait. C'est magnifique.
C'est pas nécessaire de revoir la série, donc on est d'accord.
C'est pas nécessaire de revoir la série. C'est une autre histoire, hein, au bout d'un moment.
Ouais, j'ai quand même envie de la revoir, histoire de me remettre un peu dans l'ambiance avant d'attaquer les films. Donc écoute, on verra. Là, je termine mon run sur It's Always Sunny in Philadelphia parce que j'avais plusieurs saisons de retard et en fait, j'ai eu envie de tout revoir. Donc,
De manière correspondante, je regarde toujours une série de robots en même temps. Et voilà, une série de robots, je me fixe une série de robots, je la regarde jusqu'au bout et je passe à autre chose.
Et t'es sur quoi, là ?
En ce moment, je me regarde Endgame. C'est une série de Tomino de 84, si je m'abuse.
Ouais, ça me dit rien du tout.
Et c'est la série qu'il a fait presque en même temps que Dunbine, qui est l'autre série de Tomino qu'il a fait. Tout ça, c'est avant Zeta Gundam.
Ouais.
Et c'est des séries où tu vois Tomino. Alors, soit Tomino a un problème, c'est soit il est trop dramatique et il tue tout le monde, soit c'est le bordel et c'est ce que mon père appelait le pitropensionnat. C'est genre la grosse déconne, on a volé des robots, Osef, on ouvre des cockpits parce qu'on ouvre des cockpits, on fait le cochon pendu du haut du cockpit. C'est le problème qu'aura Zeta Gundam et Double Zeta Gundam, enfin Gundam Double Zeta, c'est que Zeta Gundam était si dramatique que Double Zeta, ils se sont dit... On va lâcher la rampe, on va faire que du lol. Et c'est pour ça que les gens ont toujours détesté Double Zeta, quoi. Mais voilà, donc là, Endgame, c'est une série de comédies. J'imagine qu'après, au bout d'un moment, il va y avoir des morts quand même. C'est un peu, ça reste quand même Tomino. Mais ça reste quand même très, très, très vanne. Beaucoup de nudité friponne des années 80. Il y a aussi une fée, puisque dans tous les trucs de Tomino à cette époque-là, il faut une fée. Voilà, donc c'est je regarde Endgame, c'est ma pause déjeuner avec Ultraman 80.
C'est une combinaison un peu étrange quand même, des gros robots et une fée et des morts.
Mais
et du lol.
La fée, ça vient de Dunbine. Alors Dunbine, c'est beaucoup plus dramatique et c'est le premier. Tu sais, je connais la notion d'Isekai.
Oui, je connais. Oui. Attends, j'ai vu tout Sword Art Online. Attends.
Sword Art Online, Escaflowne.
Ouais.
Et ben Dunbine, c'est le premier Isekai vrai Isekai où c'est un mec du monde contemporain, un motard, qui est téléporté dans un monde heroic fantasy. Un monde heroic fantasy où il y a des mechas, mais des mechas à forme insectoïde.
D'accord.
Dont le fameux Dunbine. Et c'est un monde heroic fantasy, mais avec des mechas. Et évidemment, au bout d'un moment, ça devient très dramatique. Et c'est à partir de cette série-là que Tomino a eu son... Avec Hideon. Cette série-là que Tomino a eu son surnom de « Tue les tous ».
D'accord.
Voilà, il extermine presque, je peux pas dire tout le cast, mais vraiment une grande partie du cast. Et parfois, complètement gratuitement. Tu sais, il y a un gif très très connu de Hideon qui circule où tu vois un enfant qui court avec un scaphandre et puis il y a un rayon laser et tout d'un coup l'enfant il a plus de tête. Bah, ça, c'est Tomino in a nutshell.
Je n'ai pas le plaisir de connaître ce gif, mais il va falloir que je le cherche du coup.
Ouais, c'est connu, c'est très très connu. Et c'est horrible, hein, regardez bien sûr. Mais voilà, c'est. C'est Tomino. Quand il a décidé de tuer les persos, il les tue, quoi. Et puis, tu sais quoi, c'est de la SF, hein, tu vois, ça n'existe pas.
Ouais, ouais, ouais.
Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder.
Voyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé.
Comme je le disais tout à l'heure, après Silkson, que j'ai eu envie de changer et de me mettre à un jeu qui serait un petit peu, bah déjà un petit peu moins déprimant, et puis qui serait un petit peu moins bouffetant. Donc je me suis dit que j'allais me garder Hades 2 pour un peu plus tard, parce que Hades 2, ça va encore être un truc dans lequel je vais engloutir une centaine d'heures. Et donc j'ai attaqué un jeu de mon backlog que j'avais depuis très très longtemps, qu'on m'avait offert pour un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus. Et c'est Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Switch.
T'avais pas plutôt Triangle Strategy à faire? Que quelqu'un, un de alors, tes meilleurs amis, le plus proche
j'ai
de ton,
Triangle Strategy,
de ton Kokoro qui t'aurait posé pour...
qu'un très bon ami m'a offert, mais je suis aussi sur plusieurs RPG en même temps et donc je préfère éviter de tout mélanger. Et je sais que Triangle Strategy c'est plutôt un tactical, mais j'avais envie vraiment d'un truc coloré et d'un truc fun. Mais sache que j'y jouerai, Daniel, j'y jouerai, ne t'inquiète pas, je jouerai à Triangle Strategy un jour. Donc Super Mario 3D World, alors j'avais déjà fait 3D Land et ayant déjà fait 3D Land, je sais pertinemment que le premier run jusqu'à Bowser, en fait, globalement, c'est l'échauffement et que le vrai jeu commence après, en post-game. Et donc, je suis encore sur ce premier run. J'ai pas encore battu le Bowser boss de fin. Je suis quasiment à la fin, je pense, parce que là, je suis à l'intérieur de son château. Donc, globalement, les choses se précisent. Mais je passe vraiment des bons moments parce que, bah, une fois de plus, Nintendo, des nouvelles idées à chaque niveau. J'aime beaucoup les nouveaux trucs comme les cerises qui te multiplient tes personnages que tu diriges ensuite tous en même temps. Et ça peut donner un joyeux bordel. Non, il y a vraiment plein d'idées super cool dans cet épisode. Et j'ai pas encore essayé en multi parce que ces jeux-là en multi ont tendance à me crisper plus qu'autre chose parce que globalement c'est le bordel et ça devient super difficile de finir les niveaux. Mais honnêtement, je passe vraiment un super chouette moment. C'est très coloré. En plus, sur l'écran de la Switch 2, c'est magnifique. Il y a du HDR, il y a tout ce que tu veux. Il y a 120 frames par seconde, peut-être pas. Mais il y a eu un patch pour la Switch 2 pour améliorer les performances. Et ouais, non, je passe un excellent moment. Donc je suis très impatient d'être à ce fameux post-game pour voir ce qui m'attend. Et ça remplit parfaitement son office, en fait. Ça fait parfaitement le job par rapport à Silksong, sur lequel je te cache pas que oui, il y avait des moments d'une tristesse telle que j'étais là genre je sais pas si j'ai envie de relancer le jeu, alors que là Mario je le relance sans hésitation. En plus c'est des niveaux assez courts, donc ça peut se snacker de manière de manière très simple. Je crois que le plus long niveau, il prend genre 3-4 minutes à parcourir. Et puis, tu peux y revenir. Alors, évidemment, à chaque fois, il y a des trucs à collecter. Il y a des étoiles vertes à récupérer. Il y a un tampon à récupérer. Il faut finir en tapant le drapeau au plus haut pour faire 10 000 points. Donc, tout ça, c'est des trucs qui sont pris en compte sur une sorte de cahier de suivi. Donc, j'essaye à chaque fois que je termine un niveau de le faire avec les 3 étoiles, avec le tampon, avec les 10 000 points. Et en gros, je persiste jusqu'à ce que j'ai tout. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est très, très plaisant. Et alors, j'ai entendu énormément de bien du DLC Bowser's Fury, qui donc est fourni de base avec la version Switch. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup, il paraît que c'est un côté, c'est un aspect plus ouvert. Mais je sais pas trop comment ça marche. Toi, tu y as joué, Daniel. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Alors, évidemment, moi, comme j'avais joué au jeu original, c'était la pièce de résistance. Mmh. Et c'était vraiment super. Mais c'est juste... Imagine comme si c'était un seul niveau, mais avec plein de... Imagine un Protome Odyssey, mais où tu dois affronter Godzilla.
Ah bah écoute, dit comme ça, ça a l'air super cool, donc j'ai hâte d'y être en fait.
Voilà, c'est ce que je me souviens quand je ferme les yeux et je repense à ce DLC. Enfin, c'est pas un DLC, parce que c'est vraiment un jeu supplémentaire qu'ils ont fait.
Ouais.
Un truc expérimental, mais je trouve ça... Super, vraiment, tu vas pas le lâcher avant de l'avoir fini.
D'accord.
Ça dure pas longtemps, mais alors c'est super.
Je suis très occupé parce qu'en plus, j'ai retrouvé ma 3DS et rallumé ma 3DS. Du coup, je rejoue à Picross. Et puis, j'ai lancé. Alors, je sais que tu n'es pas fan, mais j'ai relancé Luigi's Mansion 2. Parce que, en fait, j'avais fait le 1 il y a pas si longtemps. Du coup, j'ai lancé le 2. Et je sais que tu n'aimes pas beaucoup le 2, mais je pense que c'est parce que tu as joué au 3 depuis, alors que moi, ce n'est pas mon cas. Donc, le 2, pour l'instant, ne me tombe pas des mains. Et, a priori, le 3, c'est le chef-d'œuvre de la licence. Le 1, j'ai trouvé ça un petit peu faiblard. Le 2, je trouve ça sympathique.
J'ai jamais été un grand Luigiste. Mais par contre, je reconnais que le 3, il est vraiment, c'est genre, ils ont fait le top et il faut pas aller plus loin.
Ouais. Bah, je me le garde pour la fin, c'est pour ça.
C'est vraiment celui où je me suis dit, ah ok, Nintendo essaye de faire un jeu Pixar. Voilà, c'est vraiment...
Bah écoute, c'est pour ça, je pense que c'est la bonne démarche de le garder pour la fin. Comme ça, j'ai encore une chance d'apprécier le 2 et je ferai le 3 plus tard.
Et puis le 2 est un jeu 3DS de base.
Le 2 est un jeu 3DS, donc j'y joue sur 3DS. Et sur 3DS, je trouve ça assez sympathique parce qu'il y a les petites mimiques de Luigi. Il y a Luigi qui fredonne la musique du jeu. Il y a l'utilisation qui est faite. Alors dans l'épisode GameCube, quand tu reçois un appel, c'est une Game Boy. Là, dans celui-là, c'est une DS. Donc je trouve ça assez rigolo qui utilise le périphérique d'avant en fait pour communiquer avec toi, le PNJ. Donc j'y prends du plaisir, mais après ça reste un petit jeu. Effectivement, je peux entendre tout à fait que c'est un 6 sur 10, voire moins, que c'est pas un jeu majeur. Mais écoute, j'y prends du plaisir. Mais par contre, Picross, puis alors là, attends, t'as vu les annonces Picross là?
J'ai vu qu'il y a Picross SNK et Picross Capcom.
Mais enfin, oui, bon,
non, SNK, je crois.
SNK et Capcom, il y a un jeu de chaque. Donc j'ai évidemment, c'est précommandé.
Mais déjà, il y avait un Picross Sega qui est...
Il y avait un Picross Sega et un Picross Namco.
Mais tu sais quoi, en fait, j'adore les Picross quand ça représente quelque chose, quoi. Quand tu as un dessin qui te parle et que tu fais « Ah oui, ok, c'est Altered Beast », c'est quand même plus cool. Et j'ai une petite nostalgie pour Picross 3D, j'aimerais bien un jour le retrouver, mais... Mais je pense que comme il n'y a pas de stylet sur la Switch, il ne se lance pas dans un truc comme ça.
Alors que sache que je n'ai toujours pas joué à Picross 3D, mais je l'ai en version boîte derrière moi à l'heure actuelle, puisque je l'ai acheté, parce que j'en entendais tellement de bien, et j'ai même acheté Picross 3D 2 alors qu'il n'était disponible qu'au Japon. Donc je les ai précieusement et je vais les faire, mais je veux finir tous les Picross de la 3DS avant pour ensuite me mettre au Picross de la Switch, et il y en a une chier quoi.
Non, t'en as beaucoup des Picross 3DS.
Ah bah sur 3DS il y en a 9, dont un qui était exclusif au Japon.
Tu comptes le Zelda aussi?
Non, je compte que les E.
Parce que Zelda, c'est le Picross que les gens voulaient, mais en fait tu pouvais l'avoir que si tu avais le bon nombre de points.
Ouais, je l'ai pas.
À renvoyer sur le club Nintendo, évidemment je l'ai chopé.
Malheureusement je ne l'ai pas.
Mais bon, je sais plus sur quel 3DS il est.
Mais je suis... Et le pire, c'est que les Picross, en fait, si tu as les précédents et que tu les as terminés, ça te débloque des grilles bonus dans les épisodes suivants, en fait. Donc, je suis sur le 7, j'ai jusqu'au 9, et ensuite, je me mettrai au Picross Switch. J'avais un peu commencé le Picross S sur la Switch, et j'avoue, il y a quand même un confort au stylet que je ne retrouve pas sur la Switch. C'est un peu plus chiant sur la Switch.
Tu sais quoi, sinon, t'as le Picross originel sur le Nintendo Online.
Mais sache que je l'ai en boîte, mec, et j'y ai joué.
Et je crois qu'il est jouable avec la souris de la Switch 2.
Oui, il est. En tout cas, il était jouable avec la souris sur Super NES, de mémoire.
Et je crois qu'il marche avec la... Je veux pas m'avancer, hein, ne nous envoyez pas de courrier pour ça.
Ouais.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux,
Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on te chira.
Benji, on a évidemment vu deux films qui seront, dont on parlera dans les blockbusters, mais on peut revenir un peu sur nos impressions.
Ouais.
On va partir du meilleur au pire, en commençant par Predators Badlands.
Comment tu spoil? Ouais, on peut parler de Predators Badlands. Alors, Predators Badlands, tu veux le pitcher? Vu que j'ai beaucoup parlé.
Bah, c'est un Predator familial, puisque c'est un Predator qui doit faire un rite de passage. Et malheureusement, son frère est tué par son père parce qu'il l'a jugé trop faible. Parce que les Predators, c'est pas des gens sympas en vrai.
Mais Predators, c'est une société qui est un peu compliquée. Hein.
Et donc, il se dit, je vais faire le plus grand acte qu'un Predator peut faire pour son rite initial, un truc qui n'a jamais été fait. Et il se rend sur une planète, et sur cette planète, il va se faire ami-ami avec Tomorrow de Death Stranding 2.
Tu peux dire que le rite, hein, c'est aller tuer une créature qui est limite légendaire dans la société des prédateurs, parce que personne n'a jamais réussi à la tuer, en fait.
Voilà, exactement. Et du coup, il va se faire des amis au fur et à mesure. Pas des amis, mais c'est-à-dire, il va se faire des alliés de
circonstances.
De circonstances, voilà.
Et alors, c'est un film dont le parti pris est quand même super intéressant, parce que c'est la première fois qu'un film de la licence Predator, ouais. Il y a quand même eu beaucoup de films dans la licence Predator, c'est la première fois qu'on sort du schéma classique de t'as des humains, t'as un Predator qui arrive, et les humains se débrouillent, et enfin, les humains, je dis au pluriel, mais généralement, c'est un humain, se débrouille pour piéger et tuer un Predator. Oui. Bah là, non. Là, on suit le point de vue d'un Predator pour la première fois.
Et surtout, du coup, on découvre un peu leur vie de famille, quoi. Genre, qu'est-ce qu'ils font le week-end, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un peu de temps libre. Évidemment, ils chassent. Évidemment, ils sentent pas bon de la bouche. Enfin, vraiment. Non, mais genre, on les voit en train de remettre leurs armures. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des trucs très, très fonctionnels de la vie d'un Predator que je me suis jamais posé.
Et moi non plus. Alors justement, ça m'a poussé à me poser plein de questions en fait sur le fonctionnement de la société des prédateurs. Alors j'en ai parlé sur Mastodon un peu. Et alors léger spoil, il est suggéré qu'il y a des femelles prédateurs, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu pour l'instant dans le canon des films, parce que oui, les comic books ont déjà un peu traité de certaines des questions que je vais poser, mais les films jamais. Et donc moi, les questions que je me suis posées, c'est les prédateurs, ça reste quand même une société archi-tribale et clanique où ils passent leur temps à partir à la chasse et limite à s'entretuer entre eux. Qui construit leurs vaisseaux qui leur permettent de faire des voyages intergalactiques? Est-ce qu'il y a des prédateurs employés d'usines qui pointent, qui font du 9h-18h, qui fabriquent des trucs à la chaîne? Est-ce qu'il y a des scientifiques prédateurs qui conçoivent toutes ces armes super évoluées? Alors dans les comic books, on t'explique que globalement c'est une espèce plus évoluée que les prédateurs qui s'est fait massacrer par les prédateurs qui ont récupéré leur technologie, mais dans les films ça n'est jamais traité. Et surtout, que font les femelles prédateurs? Et donc du coup, moi je m'étais lancé dans une théorie que en fait c'est les femelles prédateurs qui sont super intelligentes. Qui sont à tous les postes du gouvernement, qui sont les scientifiques, qui font les avancées technologiques, et comme les mâles, c'est un petit peu des gros primates tout juste bons à chasser, elles leur filent des jouets, elles leur disent allez, vas-y, occupe-toi, va à la chasse et fais pas chier.
Non, mais on peut le spoiler à notre public, hein. La femelle prédateur, c'est Rachida Dati. Elle est là pour tuer ses adversaires.
Elle est là pour mettre en pièces les mâles qui sont sur son chemin. Mais donc voilà, écoute, ça c'est tout le theory crafting sur lequel je me suis lancé à la fin de ce film. Mais globalement, j'ai bien aimé ce film. Alors, il n'est pas sans défaut. Hein. Il y a quand même pas mal de problèmes. Je trouve qu'il y a de la surexposition, notamment via le personnage de Elle Fanning, parce que c'est elle ou c'est Dakota, je sais jamais. C'est elle, hein, on est d'accord. Il y a ce personnage qui est le seul personnage à parler, à un moment dit activation du traducteur automatique, les gens qui m'entendent comprennent ça comme si c'était leur langue que je parle. Ouais, ok, super, t'es gentil, mais t'as pas besoin de ça, il y a un seul autre protagoniste à qui tu parles et c'est le Predator. Alors je peux comprendre que vous en ayez marre de devoir sous-titrer tout le temps du langage Predator, mais c'était pas nécessaire, quoi. Et globalement, cette surexposition permanente par le personnage de cet androïde m'a un petit peu fatigué. On peut aussi parler d'un autre de leurs sidekicks qui est un extraterrestre, qui est un alien. En gros, c'est pas un extraterrestre puisqu'il habite sur cette planète, il est endémique à cette planète, mais il a vraiment une sale gueule, je trouve. Il est vraiment pas beau. Et puis il est un peu trop intelligent, je trouve, mais quand même, malgré toutes ces maladresses et tous ces trucs dans l'écriture que je trouve un petit peu faiblard, j'ai passé un bon moment, quoi. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. C'est vraiment un film qui essaie de faire quelque chose de neuf. C'est un film qui, pour une fois, utilise vraiment l'environnement naturel de la planète sur laquelle ils sont. Et c'est un film sur lequel je me suis pas ennuyé au final. J'ai passé des bons moments. Voilà. Donc malgré toutes ses faiblesses, Predator Badlands, bah c'était plutôt un bon moment pour moi.
Ouais, moi aussi. Franchement, j'ai passé un bon. Je me suis pas emmerdé. Bon, évidemment, faut supporter les personnages de robots sympas, des robots genre qui ont toujours un bon truc un peu witty à dire ou justement un peu décalé parce que la situation est catastrophique. Et voilà, et je trouvais qu'elle jouait plutôt bien en fait, elle jouait plutôt bien le robot.
Ouais, et puis il y a vraiment des bonnes idées avec son personnage quoi, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, hein, en gros il y a que la moitié de son corps, mais l'autre moitié de son corps est quelque part, et au début ils partent à la recherche en fait de sa moitié de corps, c'est la condition qu'elle lui donne pour qu'elle l'aide en fait.
Et bon, donc ça c'était notre bonne surprise par le réalisateur de Predator Prey, hein, précisons.
Par le réalisateur de Prey et de Killer of Killers, donc qui sont ces courts-métrages animés qui sont sortis entre les deux. Mm-hmm. Donc, est vraiment un type qui, je pense, est vraiment, s'est posé plein de questions sur la saga, en fait. C'est qu'il y a un type qui, je pense, a un vrai amour de la licence Predator. Et c'est plutôt chouette, quoi, qu'on le laisse faire ça.
Moi, je suis plutôt positif. Mais alors, quel est le film où on est moins positif?
Alors, on a eu droit à une plutôt bonne adaptation de Stephen King en début d'année, enfin, un peu plus tôt, avec Marche ou Crève. Et là, on a eu Running Man par Edgar Wright. Et je t'avoue que, peut-être que c'est parce que c'était Edgar Wright, j'en attendais trop. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça relativement médiocre, en fait. Voilà.
Moi, j'ai trouvé ça, genre, je me suis dit, ah, c'est Edgar Wright qui fait vraiment, genre, il est là pour faire le taf qu'on lui a donné. Alors, il dit à tour d'interview que c'est le film qu'il rêvait de faire et tout ça.
Ah ouais, mais ça fait très longtemps qu'il veut le faire. Hein.
Écoute, je veux bien te croire, mais j'ai trouvé le film extraordinairement passable. Vraiment, vraiment, genre, je pense pas qu'il y ait de bonnes scènes qui me restent en mémoire. Alors, on peut m'opposer le fait que le Running Man, celui de,
enfin le 87,
il est kitscho, c'est tout ce que tu veux, d'accord, j'entends.
Ah mais il est kitsch, il respecte pas le bouquin, il est complètement idiot, et je l'entends.
Que le Running Man français,
le prix du danger,
mais qui est un film extraordinaire,
super film,
mais on peut jouer bien, j'entends ce que vous dites, mais par contre celui-là. Il y a un truc, je pense que dès le début, il y a un vrai problème. C'est un problème de casting.
Ah, c'est Glenn Powell, tout muscle saillant, alors que c'est censé être un pauvre qui a du mal à se nourrir.
Bah voilà, pour un mec qui... Parce que normalement, Running Man, c'est un mec qui a la haine de la société. Et c'est ça le bouquin, hein. Il a la haine de la société. Ah ouais. Et il le répète à tout bout de champ, je suis pas là pour changer la société, je suis là pour aller revoir ma fille, pour voir mon gamin et ma femme.
Ouais.
C'est tout. Et d'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le film. Mais il y a un truc, c'est qu'il est vraiment 10 000 fois trop Ken, 10 000 fois trop beau. Au tout début, il se fait un peu tabasser, tout ça, machin. Il ouvre la bouche, je me dis, c'est pas une bouche de pauvre.
Ah bah, il a des dents impeccables.
Il a les dents impeccables. Et tu vois, genre.
Non, mais attends, la scène où il est en serviette et ensuite la scène où il est cul nu, tu vois qu'il a un corps incroyable.
Oui.
Puis c'est pas possible. Je veux bien qu'il fasse un métier un peu physique et tout, donc qu'il soit pas complètement queuse façon Christian Bale dans The Machinist. Ok, mais pour avoir un corps comme ça, non seulement tu soulèves de la fente, mais tu prends des protes aussi. C'est pas possible, quoi.
Oui, voilà. Enfin, au moins, il est entraîné, il est entretenu. Et je veux bien le croire. Et tu sais quoi? D'accord, mais le problème, c'est que, et même quand il est en gros plan et qu'on voit pas son corps, il a pas l'air en colère, quoi. Il sait pas jouer la colère. Je pense que Glenn Powell a l'air incroyablement sympa. Il a l'air d'être un mec sympa. Il a l'air d'être une vraie star de cinéma. Ça, y a aucun souci. Quand je le vois à l'écran, je me dis, ça, c'est une star de cinéma. Je l'ai vu en présence. Il y a Glenn Powell et Edgar Wright qui sont passés dans la salle, dans la passage juste avant pour présenter le film.
Ouais.
Donc, tu vois, il avait un manteau sublime, je tiens à préciser. Je parle de Glenn Powell, hein, pas Edgar Wright.
Mais je pense que Glenn Powell, il y a 40 ans, ça aurait été une de ces stars façon Tom Cruise, Stallone, Schwarzenegger qui amenait les foules au cinéma juste par leur nom, mais de nos jours ça fonctionne plus ça.
Non mais en fait il a vraiment l'air d'une star de ciné, et je suis complètement d'accord machin, mais il a pas l'étoffe pour jouer ça, il a pas l'étoffe, il a pas le charisme pour jouer ça, et à chaque scène j'y croyais pas, et alors quand arrive la deuxième partie du film, oh là là, j'avais du mal à me retenir d'ennui, quoi. C'était vraiment avec l'inévitable visite d'un mec un peu geek, parce que ça, c'est le classique du film, genre le geek qui a tout préparé et qui est un peu witty. Oh là là,
et qui fait n'importe quoi. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que on en a pas parlé plus tôt, hein. On s'est pas mis d'accord, mais je suis à 100% d'accord avec toi. La première moitié du film, j'arrive encore à défendre plein de trucs, mais la deuxième moitié, à partir du moment où il quitte la ville, globalement. pour moi, c'est terminé. Déjà, je commence à m'ennuyer. Et le film devient laid. Et honnêtement, ça ne m'intéresse plus du tout, quoi.
Le film devient vraiment, vraiment pas beau. Alors, bien sûr, Edgar Wright, c'est le montage et tout, machin. Mais d'accord, mais ça fait pas le film. Et je pense que Glenn Powell, ça s'est fait. Évidemment, tu obtiens pas un gros budget si t'as pas une grande star. Et c'est la grande star du moment.
Ouais.
Mais là, ça ne fonctionne pas, quoi.
Eh ben, c'est marrant, on est complètement en accord. Vraiment. Et alors, la fin, moi, j'ai eu l'impression de me faire insulter, en fait. La manière dont il, cette espèce de tour de passe-passe sur le final, moi, franchement, j'ai trouvé ça limite insultant. J'ai pas du tout adhéré à ce truc.
Ouais, ça fait un peu V for Glenn Powell et j'y crois pas.
C'est un film dont le propos est justement de critiquer tout ce qui est l'entertainment à outrance, une espèce de société qui est complètement devenue amorphe face à des meurtres montrés face caméra et tout. Faire une deuxième moitié aussi chiante, putain, c'est compliqué quand même, quoi. Non, vraiment,
c'est compliqué.
J'ai pas trouvé ça horrible, de si tu veux. Pour moi, c'est un 5 sur 10, quoi, en étant assez généreux.
Combien j'ai mis sur Letterboxd? J'ai dû mettre 1,5.
Je crois que tu l'as mis moins, ouais, t'as été encore plus.
J'ai mis 1,5, parce que vraiment, c'est pas.
Mais c'est vrai que venant d'Edgar Wright, j'attendais beaucoup mieux, quoi.
Et donc, j'ai envie de dire, Edgar, on se parle entre potes, bien sûr.
Bah, maintenant que tu l'as vu dans une salle de ciné, on peut. Voilà.
Mais Edgar, j'ai envie de dire, Edgar, c'est le moment de refaire un film avec Simon Pegg et Frost. Genre, c'est bon, on a vu que tu pouvais faire sans, mais maintenant, il vaut mieux que tu refasses avec eux, en fait.
Eh ben, je suis d'accord. C'était une déception totale.
Est-ce que c'est sur cet accord qu'on va en balancer nos recos?
Bah, y a des chances, oui, parce que j'ai pas encore vu le nouveau Wicked, vu que j'y vais.
Je me suis dit, ça dure encore 2h30. Et à tous les coups, on m'a pas prévenu, il y a une partie 3.
En principe, non. Alors là, à moins d'une vraiment très mauvaise surprise, en principe, c'est la fin. Là.
D'accord.
Mais, okay. Écoute, je te dirai ça jeudi.
Non, mais en plus, les gens l'ont entendu l'année dernière, j'ai pris plaisir à Wicked 1.
Moi aussi.
Mais le truc, c'est que c'était évidemment beaucoup trop long pour son propre bien.
Je suis d'accord, c'était trop long, mais j'ai été surpris d'apprécier autant, perso.
Le bois ne rend pas les coups.
Eh ben écoute, tu sais que After Eight, c'est un titre trompeur parce que nanana, tout ça, à la fin, on balance nos recommandations.
On commence à le savoir.
Ouais.
Et donc, mes recommandations, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte via une des vidéos qu'ils ont faites sur Silksong. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Carbot Animation, donc Carbot, C-R-B-O-T, ensuite animation comme animation. Et c'est un petit studio d'animation indépendant qui fait plein de vidéos et de courts-métrages sur les jeux vidéo. Et ils ont fait 3 vidéos sur Silksong qui sont vraiment très drôles. Alors évidemment, si vous n'avez pas joué au jeu, il y a des choses qui vont pas forcément vous parler dedans. Il y a des blagues qui évidemment sont beaucoup plus compréhensibles si vous avez joué au jeu. Mais en fait, c'est un peu les Video Game Donkey, mais en mode animation, parce que il y a vraiment des trucs très très drôles dedans.
D'accord.
Donc voilà, la deuxième vidéo qui s'appelle I Love My Dog, tu peux la regarder même sans avoir joué au jeu. C'est bon, c'est une petite chanson qui te reste dans la tête. C'est vraiment un truc, ce qu'on appelle un earworm en anglais. Et ils ont fait plein d'autres vidéos. Donc il y en a une sur Clair Obscur, il y en a une sur Path of Exile, je crois qu'il y en a une sur Dispatch que j'ai pas encore regardé parce que je veux jouer au jeu avant. Bref, c'est vraiment super sympathique et c'est très joli. En plus, ils ont même fait un t-shirt, enfin ils ont fait une série de t-shirts Silksong, j'en ai acheté un tellement je l'ai trouvé chouette. Donc voilà, c'est super réussi et vraiment rigolo. Donc je recommande.
Redis le nom.
Carbot Animation. On mettra bien entendu le lien dans le post.
Très bien. C'est moi qui le mettrai donc.
Alors, c'est moi qui t'enverrai le lien et tu le mettras dans le post.
Et pour ma part, moi je suis en train de jouer à un jeu qui me passionne, c'est Inazuma Eleven. Et Inazuma Eleven
qui est enfin sorti, c'était quand même
après 9 ans de tergiversation.
C'est fou quand même.
Ça se voit aussi hein, ça se voit que ils ont coupé des trucs, ils ont rajouté des trucs, ça se voit qu'il y a beaucoup de layers de jeu. Comme je te disais, c'est un jeu de foot où le foot arrive à la 7e heure après 6 heures de combat de pierre feuille ciseaux, de mini-jeux, de jeux d'aventure, de pourquoi est-ce que le foot a été interdit dans l'école, enfin vraiment t'as vraiment un mystère, il faut comprendre le mystère, pourquoi le foot a été interdit dans l'école. Bref, au bout de 7 heures, le jeu commence et il y en a pour le mode story, il y en a une pour une trentaine d'heures en fait.
Ouais.
Et c'est vraiment génial. C'est vraiment le système de foot est très rigolo. Rappelons-le, ce n'est pas un jeu de foot, c'est un RPG de foot. C'est pas un jeu pour les mecs qui aiment le foot, mais c'est un jeu pour les mecs qui aiment les RPG en fait.
Est-ce que c'est un peu comme les jeux Captain Tsubasa de l'époque Famicom, Super Famicom?
Bien sûr, évidemment, c'est assez scripté, donc il faut pour les matchs décisifs, il faut essayer essayait de déployer les moments clés de chaque partie et tout ça. C'est assez bien fait. C'est prenant et voilà, c'est mon coup de cœur de fin d'année. Et s'il y a un truc qui me touche particulièrement, c'est que le héros de ce Inazuma Eleven, qui se déroule 25 ans après, donc on voit parfois des vieux joueurs passer, ils sont maintenant coach ou des trucs comme ça. Le héros de celui-là, il s'appelle Unmei et il ne peut pas jouer au foot justement parce qu'il a été blessé, il a une maladie, il ne peut plus jouer au foot. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le coach de l'équipe. C'est un petit garçon, il a même pas le bac. Et il va être le coach de l'équipe parce qu'il a une vraie vision du football. Il voit le football comme un professionnel. Et c'est assez passionnant parce que pour moi, qui est en ce moment blessé et qui me dit qu'est-ce que je pourrais faire comme sport et qui suis en pleine, pas hésitation, mais physique. Mais tu vois, j'ai quand même des doutes sur mes capacités, est-ce que je vais pouvoir faire ça ou ça ou ça? Bah là, c'est vraiment une vraie problématique du jeu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du foot? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre de notre passion si on peut plus la faire? Et c'est vraiment comme dans un jeu level 5 habituel, il y a toujours une espèce de couche dramatique. Des gens qui ont fait Yo-Kai Watch le savent, genre les yokai, c'est pas des gens gentils en fait, c'est pas toujours des gentils, c'est plutôt des démons, et c'est des démons qui sont là pour une raison. Et moi, en général, l'exemple que je donne, c'est qu'il y a un des yokai, c'est le yokai des disputes parentales. Et si tes parents se disputent, c'est parce qu'il y a un yokai qui est entre eux et qui fait en sorte que tes parents se disputent, et c'est à cause de ça qu'ils divorcent.
D'accord.
Et il y a un yokai pour ça. Voilà, et c'est très dramatique, hein, je trouve, pour un jeu qui est censé être un peu Pokémon. Pokémon n'irait pas faire un truc comme ça. Et dans Yo-Kai Watch, on n'est jamais à l'abri d'un truc comme ça.
Ah, c'est level 5, quoi. C'est...
Inazuma Eleven, il y a toujours des trucs dramatiques, des histoires de bully, des histoires de souffrance et tout. Et c'est passionnant parce que j'ai vraiment vibré pour cette histoire du début à la fin. Vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, je vous recommande Inazuma Eleven, qui est sorti sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch et sur PC. Dans le monde entier en même temps, donc il est même dispo en français. Et c'est ça qui est vraiment genre en worldwide, comme tu veux. Et c'est vraiment un beau jeu.
Et alors, c'est marrant parce que tu mentionnes justement cette faculté que peut avoir Level 5 de mettre des trucs dramatiques comme ça. J'ai refait récemment le premier Professeur Layton et l'histoire, elle est d'une tristesse au final.
D'une noirceur, hein, c'est horrible. Hein,
c'est d'une noirceur, ce mec dont la femme est morte et qui finalement se recrée une ville entière avec des automates. Spoiler, désolé pour les gens qui n'ont jamais fait.
Il y en a plusieurs, hein, donc ça.
Professeur Layton.
Et l'année prochaine.
Ça, c'était juste le premier. Mais oui, donc du coup, j'avais deux questions liées à Inazuma Eleven. Alors, il y en a une, tu as plus ou moins répondu, mais ma première question, c'est moi qui n'ai pas lu Inazuma Eleven depuis, honnêtement, ça va faire 20 ans.
Lu le manga
Ouais, le manga.
D'abord, c'est un jeu vidéo. Hein.
Ouais, mais il y a eu un manga, j'ai lu quelques volumes du manga.
Il y a eu un manga basé sur le premier jeu vidéo, ouais.
Ouais, j'ai lu quelques volumes du manga il y a quelques années, donc du coup, ça n'est pas nécessaire de connaître l'histoire ou tu peux attaquer direct avec celui-là.
Non, tu peux attaquer direct avec celui-là. Par contre, on te parle du héros légendaire, tu vois pas, mais on te dit, il y avait un grand champion.
D'accord.
Et de manière, le grand champion, il est plus là depuis 20 ans, hein, donc.
D'accord. Voilà, ok. Et ma deuxième question, et tu y as un peu répondu, est-ce que c'est un grand jeu malade ou c'est peut-être plus intéressant de voir le post-mortem que d'y jouer? Mais de ce que tu en dis, c'est très bien à jouer finalement.
Non, le jeu est super, mais par contre, je paierais très cher pour avoir un post-mortem.
Ouais.
Et moi, j'ai une question avant de rendre l'antenne. On parle comme si on était allé.
On va rendre l'antenne.
Rendre le micro. Pour le Silksong, moi, j'ai jamais fini Hollow Knight.
Ouais.
J'ai jamais été au bout parce que j'avais une espèce de lassitude de Hollow Knight.
Ouais.
C'est-à-dire, arrivé à un certain point, il me demandait trop souvent d'aller dans un point à un autre, un point que j'ai oublié. Il fallait que je sois toujours dedans.
Ouais.
C'est un jeu que tu ne peux pas faire si tu ne le fais pas d'une traite.
Ouais, je pense que si tu t'arrêtes 2 mois, c'est mort. C'est pour ça que j'ai tout fait d'une traite.
Donc, est-ce que tu me conseilles de faire Silksong? Est-ce que tu me conseilles ça?
Écoute...
Et moi qui suis, comme tu sais, un fou de Metroidvania.
Et écoute, je pense que tu n'as pas besoin de faire Hollow Knight pour faire Silksong. Après, si tu as fait Hollow Knight, il y a des choses que tu vas apprécier un peu plus dans Silksong. Mais honnêtement, les références sont très, 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 très légères.
Mais c'est pas en termes de références, c'est en termes de est-ce que ça m'apporte quelque chose?
Ah, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ah, moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment.
Le lore de Silksong.
En fait, c'est un autre univers, c'est une autre histoire. Et globalement, ça reprend juste ce personnage que tu vas croiser dans Hollow Knight quelques fois et que tu vas jouer cette fois-ci. Mais c'est vraiment son histoire à elle, dans un univers qui est vraiment séparé. Et moi perso, après comme tu l'as dit, le problème c'est que si tu t'arrêtes 2 mois, c'est très compliqué de reprendre, donc il faut vraiment s'y investir et y passer du temps, quoi.
Bon bah écoute, t'as répondu à ma question. C'était After Eight. La phrase rituelle, bah, c'est pouvoir retrouver After Eight sur tous vos applis de podcast et sur le site aftereight.fr. Ce podcast sera d'ailleurs sans doute monté par Baptiste qu'on embrasse.
Qu'on embrasse, voilà.
On espère, on dit ça, mais ça se trouve, c'est, pas, c'est quelqu'un d'autre et on lui dit hey, « Eh, l'autre monteur, efface Baptiste, efface Baptiste. » Non, je
on remercie nos généreux patriotes. Pour une fois, on le fait à la fin. Hein, ouais. On l'a pas fait au début, mais on remercie nos généreux contributeurs sur patreon.com/rpu, voilà, qui nous permettent déjà de payer Baptiste, hein, déjà rien que ça, parce que
et de propulser ce podcast et, aussi
et de voilà et d'héberger ce podcast nous-mêmes sans passer par une plateforme tierce, sans payer Spotify ou je ne sais qui. Tout ça, c'est hébergé par nos soins. Donc voilà,
pas
les podcasts indépendants, c'est important.
Pas de politique dans ce podcast.
Voilà.
Et ben on vous embrasse.
Merci de votre soutien. Sans vous, on ne pourrait pas rester indépendant comme ça.
On vous embrasse très fort et on vous dit merci de votre soutien. Et puis on se donne rendez-vous sans doute pour le prochain, pour l'année en revue de After Eight.
C'est vrai que c'est bientôt la fin de l'année. Là, c'est Thanksgiving cette semaine pour moi, donc.
Donc on va essayer de
se caler ça.
C'est quoi le plus simple? Ça serait que tu ailles en Savoie la semaine prochaine.
Ouais, alors ça va être compliqué et aussi il faut que j'ai une brochette de blockbusters à m'envoyer là sur lesquels je suis pas à jour, donc ça va être comme d'habitude, c'est le sprint final pour s'enquiller du blockbuster avant le
faut que je regarde
avant
Wicked,
l'émission.
Faut que je regarde Wicked 2 et surtout on peut pas le faire avant la sortie des Hommes en Bleu.
Attends, c'est quoi ça?
Avatar.
Ah putain, oui, c'est vrai, tu vois, j'avais oublié. Et Avatar il sort mi-décembre, non, un truc comme ça?
Ouais, il sort le 14 comme de chaque année.
Ah ouais, donc ça va vraiment repousser l'épisode à tard. Ouais,
ouais, à tard,
oui, effectivement. Avatar,
ouais. Avatar. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao.
Gros bisous. Bon, du coup, moi, je vais parler du jeu que je fais en ce moment, puisque donc comme
je te demande une pause. Je te demande une pause. C'est mon fameux ouais. Médoc.
Elle va prendre tes médocs, quoi. Et Mougouri.
Improduction RPU.